On va commencer notre étude. On était dans les mystères du Nouveau Testament. On est rendu dans les mystères dispensationnels, donc en rapport avec les dispensations. On avait vu les mystères doctrinaux. Il y avait six mystères doctrinaux. Maintenant, on est dans les mystères en rapport avec les dispensations. Puis il y en a cinq. Les mystères du royaume des cieux, c'est celui qu'on a commencé la semaine passée dans Matthieu 13. On a le mystère de l'aveuglement d'Israël. Peut-être qu'on va commencer à le toucher ce soir. Ensuite de ça, on a le mystère de l'enlèvement de l'Église, le mystère de sa volonté et ensuite le mystère de Dieu. Puis ensuite, après, on a un mystère qui est dévotionnel. C'est le mystère de Christ qui habite en nous. Puis ensuite, on va terminer avec deux mystères diaboliques, deux mystères en rapport avec Satan. C'est le mystère de l'iniquité et le mystère de la grande Babylone. Mais ce soir, on va aller dans Matthieu 13 pour revenir dans notre étude qu'on avait commencée. On avait regardé les trois premières paraboles, c'est les paraboles du royaume. Et on va lire, on ne lira pas tout le chapitre parce qu'il y a beaucoup de versets, mais on va lire à partir du verset 10 qui explique pourquoi le Seigneur leur parlait en parabole. Les disciples s'approchèrent au verset 10 et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis. En vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Puis là, il explique la parabole du semeur. Et on avait vers la fin. Attendez, OK. Au verset 36. Il dit, alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Puis là, il leur explique la parabole de l'ivraie du champ. Ensuite de ça, ben, c'est ça, il y a les autres paraboles. Donc, on avait vu que dans l'évangile de Matthieu, le Seigneur est venu avec toutes les crédentielles pour prouver qu'il était le Messie, qu'il était Dieu lui-même, qu'il venait pour les sauver. Mais on a vu que en dépit de sa généalogie, en dépit de sa mise à l'épreuve dans le désert, le témoignage de Jean, le témoignage des œuvres qu'il a accomplies, ils ne l'ont pas reçu. Et à la fin, dans le chapitre 12, ils ont attribué la puissance avec laquelle ils chassaient les démons, ils ont attribué cette puissance-là à Satan. Puis le Seigneur, il s'est tourné maintenant vers des individus. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Et là, on entre dans le chapitre 13 avec les sept paraboles qui décrivent maintenant, comme on avait dit, qui décrivent le mystère du royaume des cieux dans sa forme intérim, maintenant jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à quand le Christ va venir établir son règne millénaire sur la terre. Fait qu'on va demander au Seigneur de nous aider. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour ta parole. On te remercie pour ces choses, comme tu l'as dit à tes disciples, que dans le passé, il y en a qui ont voulu entendre ces choses-là, ils ne les ont pas entendues. Mais à nous, Seigneur, non seulement on entend ces paroles du mystère, mais tu nous les révèles, Seigneur. Tu nous les expliques en privé. Et on te remercie pour ça. On te demande de nous bénir ce soir ensemble, Seigneur, dans ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, on avait vu la première parabole, ben, c'est le Seigneur qui va faire son œuvre, le semeur qui est sorti pour semer. Donc, le Seigneur commence son œuvre qui vise des individus. C'est une semence qui tombe dans quatre différents terrains, comme on avait vu. Et c'est la réponse des terrains. C'est elle qui fait la différence. La semence est la même. Et donc, on a vu la parabole du semeur. C'est le Fils de l'homme qui sème la parole de Dieu. Et ensuite de ça, les trois prochaines paraboles nous parle des obstacles que Satan veut mettre à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ qu'il a commencé en donnant une semence sur la terre. Puis on avait vu, la première, c'est l'ivraie et le bon grain. Donc la première, c'est l'imitation. L'imitation sans la réalité, ce n'est pas l'ivraie est parmi le blé, parmi les fils du royaume, mais n'est pas ne fait pas partie et elle va être arrachée à la fin. Les serviteurs ont dit, veux-tu qu'on aille l'arracher? Le Seigneur a dit non, de peur qu'en l'arrachant, on déracine aussi le bon grain. Il dit, laissez jusqu'à la moisson. À la moisson, on va séparer le vrai du faux ou le faux du vrai pour le jeter et garder le vrai. Donc, le deuxième obstacle de Satan, eh bien, c'est le grain de senevé qu'on avait vu la dernière fois, la semaine passée. On avait vu le grain de senevé qui est la plus petite des semences, mais lorsqu'il a grandi, il devient un grand arbre. Puis c'est une croissance exagérée. Donc, ça devient une organisation d'hommes. L'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est un organisme vivant. Mais quand les hommes commencent à l'organiser, ça devient une organisation humaine. Et quand c'est une organisation humaine, bien, ça fait des choses, des grandes choses, comme on voit certaines religions qui sont devenues des grandes. Et maintenant, les oiseaux impurs viennent se loger dans les branches. Puis on voit que les oiseaux, ben, ça parle de Satan, des choses qui ne sont pas de Dieu. Puis ce qui est élevé, on avait dit, ce qui est élevé parmi les hommes est en abomination devant Dieu. Mais maintenant, on arrive à la quatrième parabole qui est la troisième obstacle que Satan a mis pour entraver l'œuvre du Seigneur. Donc ici, c'est la parabole du levain. On sait qu'il y a plusieurs qui nous disent que la parabole du levain, ils parlent du levain comme... C'est sûr que le levain, c'est une influence qui s'infiltre dans toute la pâte. Donc, le levain, on met un peu de levain dans toute la pâte, puis toute la pâte est affectée par cette portion de levain qui a été infiltrée dans. Et il y a certains qui nous disent que c'est l'Église qui va christianiser le monde, c'est l'Évangile qui va christianiser le monde, puis préparer le royaume pour que le Seigneur vienne. Mais on voit que le levain dans la parole de Dieu a toujours une connotation négative. C'est toujours une mauvaise influence, c'est toujours quelque chose de mauvais. Le Seigneur a parlé du levain des pharisiens, du levain des sadducéens, du levain des hérodiens. C'est toujours une mauvaise influence qui s'infiltre. Puis on voit, d'après ce qu'on a dit, que c'est les trois obstacles de Satan pour entraver, pour nuire à l'œuvre du Seigneur qui lui a commencé sur la terre. Donc maintenant, on est rendu, on regarde la parabole du levain, qui est la quatrième des paraboles. Et il nous parle ici de trois mesures de farine qu'une femme a mis dans au verset, pardon, au verset 33, il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, il ne lui parlait point sans parabole. Donc, on voit ici que il y a deux éléments dans cette parabole-là. Il y a trois mesures de farine, puis il y a le levain une portion de levain qui est introduite dans ces trois mesures de farine. Puis, on voit que c'est l'introduction du mal, l'introduction des fausses doctrines dans le royaume de Dieu, dans sa forme intérim ici, là. On voit que dans la doctrine biblique est appuyée sur trois colonnes. Si on va dans 2 Corinthiens 11, au verset 4, on voit ces trois colonnes-là qui supportent la bonne doctrine biblique. Donc, dans 2 Corinthiens 11, au verset 4, il dit que Paul fait un peu ici, c'est un reproche aux Corinthiens. Il leur dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc, c'est un reproche que Paul donne aux Corinthiens ici. Il dit, si des gens amènent un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile, vous le recevez. Donc, vraiment, ils ne devraient pas recevoir. Mais en même temps, Paul nous révèle ici que il y a trois colonnes qui supportent la doctrine. Quand on parle de trois, ça parle de stabilité, hein. Si on a quelque chose à quatre pattes, si le plancher n'est pas égal, ça sera pas stable. Mais comme un banc, les fermiers, auparavant, il y avait des bancs à trois pattes pour tirer leurs vaches parce que les planchers dans les étables, c'était pas toujours de niveau, c'était pas toujours égal. Mais un banc à trois pattes est toujours, n'importe où on le met, il est toujours stable. Parce que trois pattes, ça parle de stabilité, ça nous donne une stabilité en dépit d'un plancher qui ne serait pas égal. Bien, les trois colonnes de la doctrine, c'est concernant la personne du Seigneur Jésus-Christ. Une fausse doctrine va toujours aller contre la personne du Seigneur Jésus-Christ, un autre Jésus que celui que l'Écriture nous révèle. Quand tu nous parles d'un autre esprit, c'est que l'Esprit de Dieu va de pair avec la parole de Dieu. Donc, un autre esprit, c'est une autre autorité que la parole de Dieu. C'est ça qu'on voit qu'aussitôt qu'on a une autre autorité que la parole de Dieu, là, c'est une attaque contre la doctrine d'un autre esprit. L'Esprit de Dieu nous dirige toujours dans la vérité, nous dirige toujours dans la parole de Dieu. Et il y a des gens qui nous parlent d'un esprit qui leur fait des expériences, puis leur expérience devient une autorité. Ben là, quand on va dans ce chemin-là, on s'arrange pour avoir des problèmes parce que y a des gens qui ont eu des visions, puis ces visions-là ne s'accordent pas ensemble. La parole de Dieu est la seule autorité et l'Esprit de Dieu va toujours, c'est une marque de l'Esprit de Dieu, il va toujours nous diriger dans la vérité. Donc, c'est l'autorité de la parole de Dieu, l'autorité des Écritures. Et l'Évangile, c'est un autre, l'Évangile, c'est un point de doctrine. Et les fausses doctrines vont s'attaquer soit à la personne du Seigneur Jésus-Christ, soit à l'autorité des Écritures, ou soit à l'Évangile qui nous est prêché par la parole de Dieu. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15 comment cet Évangile-là, il faut l'avoir reçu, l'avoir cru dans les termes dans lesquels Paul les avait donnés. Donc, c'est important de voir ça. Mais quand on pense à du levain qu'une femme a introduit dans la pâte. Donc, on voit déjà là que la femme, c'est une usurpation de l'autorité déléguée par Dieu dans les rôles respectifs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est que une femme usurpe l'autorité si elle prend l'autorité que Dieu ne lui a pas donnée. Mais on sait que dans la parole de Dieu, la femme, dans son rôle, représente l'Église, tandis que l'homme représente le Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment une femme a introduit le levain dans la pâte, dans les trois mesures de farine. Qu'est-ce qui arrive? C'est que à ce moment-là, c'est l'Église qui prend l'autorité à la place du Seigneur Jésus-Christ. Et que l'Église usurpe l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur qui, lui, est la chef de l'Église. C'est lui qui est la tête de l'Église, c'est lui seul qui a l'autorité dans l'Église. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on voit, voyez-vous, dans l'Église catholique, comment l'Église catholique a pris autorité, une autorité qui ne lui avait pas été donnée. L'Église n'a pas cette autorité-là. L'Église doit toujours suivre son chef. Mais on sait que, comme de nous qui ont grandi dans l'Église catholique, on sait qu'à un moment donné, il y avait les commandements de l'Église. Il y a les commandements de Dieu, il y a les commandements de l'Église qui se sont joints. Et c'est là que le problème a commencé parce que l'Église n'est pas l'autorité. Elle a usurpé l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Puis on voit tout le dérèglement que cela a apporté. Mais ce n'est pas seulement l'Église catholique. On parle du royaume des cieux ici. C'est que tous ceux qui professent être du royaume, il y a, comme pour les témoins de Jéhovah, la tour de garde. C'est la tour de garde qui est en compétition avec l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'ils font fausse route, parce qu'ils suivent une autorité humaine. Joseph Smith pour les Mormons. Joseph Smith qui prend l'autorité. Donc, ici, c'est vraiment l'Église ou le mouvement qui usurpe l'autorité que le Seigneur n'a pas donnée. C'est le Seigneur Jésus qui demeure l'autorité. Mary Baker pour l'Église du Christ. La pure vérité. Herbert W. Armstrong qui devient l'autorité. Et Ellen White pour les Adventistes. Donc, on voit ici, c'est ça qui amène des dérèglements, des fausses doctrines. C'est quand l'Église usurpe l'autorité du Seigneur Jésus. Donc, c'est ça que ça veut dire quand on parle de la parabole du neveu, là. Ben, c'est une femme qui a introduit des fausses doctrines, qui a introduit des fausses doctrines dans l'Église. Ces gens-là qui suivent ces fausses doctrines-là, eh bien, ne sont pas. C'est une entrave de Satan qui veut empêcher l'œuvre du Seigneur de se développer comme elle devrait se développer. Dans l'Apocalypse 2:20, on voit qu'il y a un reproche qui est fait ici à cette Église-là. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Il faut toujours faire attention à ça. Si c'est l'Église qui donne l'autorité, donc on dit c'est la parole de Dieu, mais selon une organisation humaine, c'est là qu'on va dans des problèmes, puis on a plusieurs exemples de cela qui ont usurpé. Donc, il faut rester vraiment avec la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui est la tête de l'Église, c'est lui qui dirige et pas d'autre. Puis, il faut pas. Quant à la doctrine, il faut rester juste sur la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il faut rester juste sur l'autorité des Saintes Écritures. Il faut rester juste sur l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, celle qui nous a été donnée. Mais là, c'est les trois paraboles qu'on vient de voir, les trois paraboles qui sont des entraves ou des obstacles mis par l'ennemi pour empêcher l'œuvre du Seigneur de se développer. Mais le Seigneur, maintenant, dans la maison, ces paraboles-là ont été données en public, mais maintenant, dans la maison, le Seigneur va expliquer à ses disciples ces choses-là. Donc, on voit que le Seigneur donne maintenant, dans les trois dernières paraboles, le résultat final de son œuvre en dépit des obstacles de Satan. Le Seigneur Jésus va arriver quand même à son but. Et en dépit des obstacles que l'ennemi a mis sur le chemin. Donc, il va démontrer ça. Ça, c'est l'effort. Donc, il y a trois paraboles ici. La parabole du trésor caché, la parabole de la perle de grand prix et le filet. Donc, qui est jeté dans la mer. Donc, on va voir ça. Dans ces trois paraboles-là, on voit que le but du Seigneur, c'est de rejoindre les trois divisions de l'humanité. Le Seigneur Jésus voit l'humanité en trois divisions. Puis c'est ça qu'on voit. Ça inclut tout le monde. Le premier, le trésor, ben, c'est Israël. On va peut-être regarder 1 Corinthiens 10, 32 pour voir cette division-là que Dieu voit de la façon que Dieu voit le monde. Alors, les gens peuvent avoir toutes sortes de divisions, mais le Seigneur, lui, voit tout le monde en trois divisions. Il dit. Puis Paul, en donnant une exhortation, il dit au verset 32 de 1 Corinthiens 10, ne soyez en scandale ni aux Grecs, donc ça c'est les nations, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Donc il y a les nations, les Grecs, c'est dans la parole de Dieu, quand on parle de Grecs, c'est pas juste les Grecs qui sont en Grèce, là. Mais quand la parole de Dieu mentionne les Juifs ou les Grecs, bien, les Grecs, c'est tous les non-Juifs. C'était dû au fait que dans ce temps-là, dans le Nouveau Testament, la culture dominante, c'était la culture grecque. C'est ça, le langage grec, tout ça. Donc, tous ceux qui n'étaient pas juifs, on les considérait comme des Grecs. Donc, ici, il dit, les Grecs, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Donc, à toutes les nations, ne pas être en scandale aux nations, ne pas être en scandale aux Juifs. et de ne pas être en scandale à l'Église de Dieu. Donc, Israël, c'est le trésor. On va regarder ça en avançant. L'Église, c'est la perle. Puis les nations, c'est le filet. Donc, le Seigneur va rejoindre avec les trois paraboles-là. Il rejoint Israël, il rejoint l'Église, il rejoint les nations. C'est le résultat de l'œuvre que le semeur est venu. Quand il est venu pour semer une semence, eh bien, c'était en vue d'avoir ces trois résultats-là dans le monde qu'on voit. Donc, quand on parle de la cinquième parabole, c'est le trésor. Puis, on dit c'est la nation juive. La nation juive, parce que est dans le champ, le trésor est dans le champ. Celui qui découvre le trésor, il découvre dans le champ, puis il va vendre, il cache le trésor dans le champ, puis il va vendre tout ce qu'il a pour acheter le champ. Pourquoi? Ben pour, à la fin, avoir son trésor. Le Seigneur rachète la terre, il rachète la création pour avoir son trésor qui est la nation juive. Puis il va enlever tous ceux qui commettent l'iniquité de son royaume pour installer son trésor. Puis les justes vont briller dans son royaume. Donc, c'est le peuple juif va être la tête. C'est le peuple juif qui va être en vue dans le royaume. On parle du royaume millénaire du Seigneur Jésus-Christ. Bien, quand il va installer son royaume sur la terre, le peuple juif va être à la tête et non à la queue. Ils disent que les gens des nations vont prendre un juif par le pan de son manteau, puis va nous dire, enseigne-nous la voie juste. Et c'est les juifs vont revenir dans un état que Dieu va les utiliser pour enseigner les nations, comme il aurait dû le faire au début. Donc, le trésor. Puis on voit dans le psaume 135 au verset 4, selon la version Darby, il dit car Jah ou Jéhovah s'est choisi Jacob pour son trésor particulier. Donc un trésor, c'est quoi? Un trésor, c'est une accumulation de choses. Hein, on parle d'un trésor comme un coffre au trésor, c'est une accumulation de choses. Puis le Seigneur, il s'est choisi Jacob comme nation, il l'a choisi quand il en Abraham. Il a fait d'elle une nation dans l'Égypte. Quand il les a sortis de l'Égypte, il a fait d'eux une nation. Puis, tout ce que Dieu a fait avec Israël, bien, c'est en rapport avec son but qu'il avait pour Israël. Puis, il ne va pas manquer à son but. Plusieurs disent que maintenant, Israël, c'est terminé. Mais Israël, ce n'est pas terminé. Le Seigneur a fait des promesses à Israël. Il va les accomplir selon sa promesse parce qu'il est le Tout-Puissant. Maintenant, quand on voit quand on lit par rapport au trésor, dans le verset 44, il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Il y en a qui disent que cette parabole-là, ça représente le pécheur qui trouve le Seigneur Jésus-Christ puis qui va vendre tout ce qu'il a pour acheter le champ pour avoir. Mais ça fait pas de sens. Puis quand il dit que la perle, c'est la même chose qui est répétée. Pourquoi que ça serait répété? Il y a une différence, il y a une distinction ici. Dans le verset 45, il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. C'est sûr que nous autres, on n'achète pas le salut. Mais le Seigneur, lui, il s'est fait pauvre de riche qu'il était pour nous racheter. Puis, quand on parle d'une perle, là, on dit que la perle représente l'Église, mais quand on parle d'une perle, qu'est-ce qu'une perle? Une perle, c'est un grain de sable, c'est un corps étranger qui entre dans un mollusque, dans une huître. Mais c'est un irritant. Le grain de sable devient un irritant dans l'huître et l'huître va couvrir de couches de nacre ce corps irritant-là qui est dans l'huître pour l'adoucir. Ben, c'est la même chose, le Seigneur Jésus est venu dans le monde comme un corps irritant. Puis le Seigneur a vraiment été un irritant dans le monde. Hein? On n'a pas voulu de lui, on l'a mis sur la croix. Puis même encore aujourd'hui, quand on parle du Seigneur Jésus-Christ, les gens ne sont pas réceptifs au Seigneur Jésus, à moins qu'ils ne se convertissent. Mais s'ils ne se convertissent pas, ils s'endurcissent, ils ne veulent pas entendre parler du Seigneur. Puis l'Église, elle, c'est ça, c'est ceux qui viennent s'ajouter au Seigneur Jésus-Christ par la foi, qui reçoivent son message et ça forme une perle de grand prix. Puis il y a une chose avec une perle, Vous savez, avec un diamant, quand on le tord, il prend de la valeur. Mais une perle, on peut pas diviser une perle. Si on divise une perle, elle perd sa valeur. Donc, elle doit être dans son entier. Ça nous parle de l'unité de l'esprit aussi, l'unité de l'Église. L'Église est belle dans son unité, l'unité de l'esprit par le lien de la paix qu'on doit garder. Donc, cette perle-là nous parle du peuple de Dieu, de l'Église du Seigneur Jésus-Christ qui s'est ajoutée à lui quand il est venu comme un corps irritant dans le monde. Donc, c'est des individus pour former un peuple. Ensuite de ça, on arrive à la septième parabole qui est le filet aussi. Il nous dit dans le verset 47, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. C'est toute une affirmation. Je me demande s'ils avaient tout compris. Qu'est-ce que ça voulait dire? Mais en tout cas, ils ont dit oui, ils ont compris d'après les explications du Seigneur. Donc, le filet nous parle du jugement des nations vivantes lorsque le Seigneur Jésus va revenir sur la terre. Si on va dans Matthieu 25, on va aller lire les versets 31 et 34. C'est comme ça que ça va se passer souvent. Ceux qui ne croient pas dans les dispensations ou ceux qui sont, ils disent que c'est la fin du monde. Hein. C'est ça comme ce qu'on était enseigné dans l'Église. À la fin ils pèsent les œuvres. Si les bonnes œuvres sont plus pesantes, ben on va aller dans le purgatoire. Puis si les mauvaises œuvres sont plus pesantes, ben on va aller dans les temps de feu. Mais ici, quand c'est le jugement des nations vivantes sur la terre au moment où le Seigneur Jésus vient pour installer son royaume millénaire. Au verset 31 de Matthieu 25, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire et toutes les nations seront assemblées devant lui. Donc, c'est les nations qui sont vivantes sur la terre à ce moment-là. C'est pour ça qu'on dit c'est le jugement des nations vivantes. Plusieurs vont mourir. On sait que dans la tribulation, il va y avoir beaucoup de monde qui vont mourir sur la terre, mais ceux qui vont arriver à la fin, que ce soit Israël qui va être restauré ou les nations qui auront survécu, eh bien là, le Seigneur va séparer, on parle des boucs et des brebis, là. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, et ainsi de suite. Puis ensuite de ça, au verset 41, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Puis là encore, il donne les pourquoi qu'ils sont des boucs et non des brebis. Quand on voit le filet, il est lancé dans la mer. Puis quand on parle de la mer, quand on parle de la terre dans la parole de Dieu, c'est Israël. Quand on parle de la mer, c'est les nations. Puis le filet est jeté dans la mer. Donc on voit qu'ici, c'est les nations. Et puis il y a toutes sortes de poissons. Ces poissons-là sont triés. Puis les bons, on garde ce qui est bon, qui va rentrer dans le royaume. On jette ce qui est mauvais, qui va être jeté dans les temps de feu. Donc c'est ça qui est le jugement des nations. Fait que le mystère du royaume des cieux ici, on voit que dans ces sept paraboles, le Seigneur révèle ces choses-là. Il nous révèle la forme intérim, puis on voit maintenant c'est ce qui s'est passé hein, dans l'histoire de l'Église jusqu'au retour du Seigneur pour établir son règne millénaire. Eh bien, le Seigneur a semé la semence. Il y a quatre terrains qui reçoivent la semence. La réponse à cette semence-là est vraiment ce qui détermine celui qui va porter du fruit ou les autres qui n'auront pas de fruit. Dans les trois paraboles qu'on a vues, les trois prochaines paraboles, la deuxième, troisième et quatrième, bien, ici, c'est l'imitation que l'ennemi fait le livret qui est parmi le bon grain. Et donc, l'imitation, c'est pour entraver l'œuvre du Seigneur. Ensuite de ça, on avait vu le grain de senevé, qui est une croissance exagérée, qui devient une organisation humaine où les oiseaux viennent nicher dans les branches. Après ça, c'est le levain qui a été introduit par une femme qui a introduit du levain dans 3 mesures de farine. Donc, c'est les fausses doctrines qui ont essayé d'entraver, mais le Seigneur en arrive à son but avec les 3 divisions de l'humanité, avec le trésor qui sont les Juifs, la perle qui est l'Église et le filet qui est les nations vivantes quand le Seigneur revient sur la terre. Donc, c'est ça qui est le mystère du royaume des cieux qu'on a vu. Maintenant, on va commencer à regarder le mystère de l'aveuglement d'Israël. On va aller pour cela dans Romains au chapitre 11. On sait que dans le chapitre 9, 10, 11 de Romains, le Seigneur Paul explique la situation d'Israël. Puis il va expliquer la forme, comment Israël est dans le temps présent. Le chapitre 11 de Romains, le verset 25, il dit, car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère. Donc là, c'est le mot mystère qu'on recherche pour nous montrer que c'est un mystère. Et il dit, afin que vous ne vous regardiez point comme sage, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici, c'est que c'est une partie d'Israël. Paul parle d'une partie parce qu'on voit qu'il y a quand même dans l'Église, il y a des Israélites qui se sont convertis au Seigneur Jésus-Christ. Et donc, c'est pour ça qu'il parle d'une partie. Une chose à remarquer avec Israël, puis même avec l'Église, c'est qu'il y a toujours un reste fidèle. Dans toutes les époques, il y a toujours un reste fidèle, que ce soit avec les Juifs, puis présentement, le reste fidèle parmi les Juifs, c'est ceux qui ont reconnu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Messie. On les appelle des Juifs messianiques, mais ils n'ont pas une place privilégiée il faut faire attention, il n'y a pas une place privilégiée dans l'Église. Parce que le baptême du Saint-Esprit, comme on avait vu, a fait qu'on est tous, il n'y a pas ni Juif, ni Grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, on est tous égaux dans l'Église. Il n'y a pas une place privilégiée pour les Juifs, mais il y a des Juifs qui peuvent être sauvés aussi bien que n'importe quelle nation. S'ils se tournent de la même façon que nous vers le Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés, ils peuvent être sauvés. C'est pour ça qu'il nous parle d'une partie d'Israël est tombé dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Puis là, il nous dit que tout Israël, à ce moment-là, va être sauvé. Ça, c'est à la fin de la tribulation. Israël va passer à travers la tribulation, c'est un temps de souffrance, de grande souffrance pour Jacob, pour Israël. Et à travers cela, on sait que la parole de Dieu nous dit qu'il va y avoir les 2 tiers d'Israël qui vont périr durant la tribulation, mais il va en avoir un tiers qui vont rester. Puis c'est ce tiers-là ici, quand il dit que tout Israël va être sauvé. Dans Matthieu, il nous parle de celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est un verset que des gens utilisent pour nous dire qu'il faut persévérer pour être sauvé. Mais ce verset-là s'applique à des Juifs dans la tribulation. Et parce que dans Matthieu 24, il nous parle de la tribulation. Et c'est que c'est ceux parmi les Juifs qui vont survivre la tribulation, qui vont arriver à la fin quand le Seigneur Jésus va paraître pour les délivrer. C'est que à tous ceux qui vont avoir survécu, qui ne seront pas morts dans la tribulation, ils vont tous être sauvés. Puis ça va être une conversion nationale. C'est le peuple au complet qui va être sauvé à ce moment-là. C'est pas un individu, mais c'est la totalité du peuple d'Israël qui va être sauvé. Ainsi, quand Paul parle ici, ainsi tout Israël sera sauvé. Ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé quand il va venir pour les délivrer. Donc, l'aveuglement d'Israël, on sait que c'est dû au fait qu'ils ont rejeté leur Messie. Mais ça vient de l'Ancien Testament aussi. Ils se sont tournés vers les idoles. Le peuple d'Israël s'est tourné vers les idoles tellement qu'ils ont été emmenés en captivité. Puis même quand ils sont revenus, après ça, bien, on sait que quand le Seigneur Jésus a paru sur la terre, eh bien, ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont rejeté. C'est pour ça que maintenant, comme un jugement, un mystère est venu sur eux, c'est le mystère de l'aveuglement d'Israël. Les trois chapitres de Romains 9, 10, 11, c'est une réponse aux arguments parce que quand Paul explique, on sait que Romains, c'est une explication de l'Évangile par la foi. Puis c'est un peu comme si quelqu'un, quand Paul explique le salut par la foi en Jésus-Christ, eh bien, c'est comme si quelqu'un venait lui dire, ben, qu'est-ce qui arrive avec les Juifs ici? Comme il y a d'autres arguments jusqu'au chapitre 9, comme si c'est comme ça qu'on est sauvé, on peut continuer dans le péché. Et là, Paul dit non, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Et puis dans les chapitres 1 à 8, il avait dit qu'il n'y avait pas de différence entre les Juifs et les Gentils pour l'Évangile, parce que tous ont péché, puis sont gratuitement justifiés par la foi. Maintenant, il arrive au chapitre 9, puis là, il explique la situation d'Israël. C'est que, en dépit le salut par la foi ne vient pas contre le plan de Dieu pour Israël. Puis là, il va expliquer. Le chapitre 9 de Romains nous parle du passé d'Israël, comment ils sont devenus le peuple de Dieu, les privilèges qu'ils ont eus en tant que peuple de Dieu. Le chapitre 10, lui, nous parle d'Israël présentement, au temps présent. Comment est-ce qu'ils sont maintenant? Puis le chapitre 11 nous parle d'Israël dans le futur. Donc, on voit le but de Dieu que Dieu va atteindre avec Israël. Avant, Israël était le moyen que Dieu avait utilisé pour rejoindre le monde. C'était le témoignage. On sait que les Écritures nous sont venues par l'Israël. Puis c'est les Écritures que nous, on utilise. C'est l'Écriture qui est dans le monde, la parole de Dieu qui s'est répandue dans le monde. Mais elle est venue par les Juifs. Le Messie qui nous sauve, le Seigneur Jésus, est venu chez les siens. Il est venu à travers les Juifs dans la lignée du Messie qui était à travers Israël. Donc ça, c'était vraiment le but de Dieu. Il était un témoignage dans le monde. Mais ils ont failli. Pourquoi qu'ils ont failli? À cause de la désobéissance. Puis à cause de leur idolâtrie. L'idolâtrie, c'est qu'ils ont, ils se sont tournés vers des idoles. Le Dieu vivant, le Dieu trois fois saint, le Dieu qui s'est révélé à eux, ils se sont détournés de lui pour suivre des idoles. Puis c'est pour ça qu'ils ont été amenés en captivité. Puis éventuellement, ils ont non seulement été amenés en captivité, mais maintenant, ils ont été éparpillés à travers le monde. C'est ça le moment du mystère de l'aveuglement d'Israël, c'est qu'ils sont éparpillés dans le monde. Mais c'est vraiment un grand miracle que même s'ils sont éparpillés à travers le monde, dans toutes les nations, ils sont demeurés des Juifs, sont encore des Israélites. Ils ont gardé leur identité nationale. Puis ça, c'est une preuve de la puissance de Dieu, là. À travers 2000 ans de dispersion. Le peuple d'Israël, il y a encore des Israélites aujourd'hui qui peuvent remonter leur généalogie, qui peuvent voir qu'ils viennent vraiment d'Abraham, selon la chair. Donc, le fait que Dieu les a préservés, ça démontre la puissance de Dieu, puis ça démontre aussi la preuve que Dieu a encore un plan pour eux autres. Puis il y en a qui nous disent que Dieu en a fini avec Israël, mais la parole de Dieu nous démontre clairement que Dieu n'en a pas fini avec Israël, que Dieu va accomplir des grandes choses pour Israël. Mais finalement, ils ont fini par faire exécuter leur Messie. Puis Étienne, dans le chapitre 7 des Actes, il leur montre leur faute et il le lapide. Et vous, Étienne, il fait un exposé. C'est vraiment le chapitre 7 des Actes, là. C'est tellement un bel exposé de l'histoire d'Israël dans le passé jusqu'à la venue du Messie sur la terre. Puis ma fille me demandait une fois, elle témoignait à un juif, puis elle m'a dit, ben, on ne peut pas utiliser le Nouveau Testament pour eux autres parce que les autres, ils ne reconnaissent pas le Nouveau Testament, mais elle m'a dit, comment que je pourrais lui témoigner, mais j'ai dit, prends acte 7, puis tu as tout ce qu'il faut pour de l'Ancien Testament pour pouvoir leur montrer leur histoire. Puis c'est ça qu'Étienne a fait. Étienne leur a exposé l'histoire d'Israël, tout ce qu'ils ont fait, puis pourquoi qu'ils en sont rendus au point où ils en sont rendus. Puis au lieu d'écouter, ben, au lieu de prendre le message d'Étienne, ben, ils ont décidé de le lapider pour l'enlever de sur la terre. Donc, c'est ça qu'on voit. Les Israélites y ont attribué, comme on avait dit, les miracles du Seigneur Jésus à la puissance de Satan. Puis le Seigneur avait dit que c'était le péché contre l'esprit qui est impardonnable. Dans Matthieu 12, 24, les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. Puis là, ça fait en sorte qu'ils ont, c'est le péché irrémissible, le péché contre l'esprit, qui ont attribué la puissance de l'esprit à Satan. Mais Pilate leur a présenté leur roi. Dans Jean 19, 14, 15, il dit, c'était la préparation de la Pâque qui est environ la sixième heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils s'écrièrent, hôte, hôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Puis Pilate leur dit, je suis innocent du sang de ce juste. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Voyez-vous, c'est la conséquence de ce qu'ils ont dit dans Matthieu 27, au verset 24-25. Ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ils ont dit, ils l'ont rejeté comme roi. Ils ont dit, nous n'avons de roi que César. Puis c'est pour ça que maintenant, ce mystère-là de l'aveuglement d'Israël. Donc, ils sont aveuglés en tant que peuple. Ils sont aveuglés, puis ils ne voient pas que le Seigneur Jésus est leur Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament, Jéhovah, qui s'est manifesté à eux. Donc, ils sont maintenant dans l'aveuglement. Puis, Paul dit aux Corinthiens que jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leurs yeux, puis pour qu'ils ne voient point. Mais il dit, quand ils se convertissent, le voile est ôté. Quand on se convertit au Seigneur, le voile est ôté. C'est un peu comme Paul, hein. On voit que Paul était vraiment voilé. Il allait contre le Seigneur Jésus-Christ, contre ceux qui lui appartenaient, jusqu'au jour où il s'est converti. Puis là, maintenant, il a compris que le Seigneur Jésus s'est mis à prêcher le Seigneur Jésus. Dans l'Ancien Testament, cet aveuglement-là était prédit. Quand on va dans Deutéronome au chapitre 29 et 30, c'est un peu l'histoire d'Israël donnée d'avance. Le Seigneur est capable de donner l'histoire d'avance. C'est lui qui vit dans l'éternité. Donc pour lui, il n'est pas dans le temps et il connaît la fin, un peu comme il a fait pour l'Église ou pour le temps qu'on vit présentement. Il a donné à Jean une vision du temps de la tribulation. Et le Seigneur peut donner avec certitude, avec exactitude, l'histoire avant on parle de préhistoire, là. Ça serait de préhistoire. Le Seigneur donne l'histoire d'avance. Puis quand on lit Deutéronome 29 et 30, on voit que Dieu décrit l'histoire d'Israël d'avance. Qu'est-ce qui va arriver à Israël? Parce que c'est l'alliance d'Israël en rapport avec la terre promise. Dieu leur avait donné des avertissements. Puis vraiment, la façon que Dieu donne l'histoire ici, c'est qu'il leur a donné des avertissements. S'ils obéissaient, c'est ça qui allait arriver. S'ils n'obéissaient pas, c'est ça qui allait arriver. Donc, c'est ça qui est arrivé. On voit cet avertissement-là dans le chapitre 29 de Deutéronome. Dans le verset 24 à 28. Voyez-vous, il dit ici, ça c'était la conséquence à la désobéissance. Non? Il dit dans le verset 24, toutes les nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi cette ardente, cette grande colère? Et l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, le Dieu de leur père, lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte. C'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, les dieux qu'ils ne connaissaient point et que l'Éternel ne leur avait point donné en partage. Alors la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays et il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. Donc ça, c'est la situation présente. L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec fureur, avec une grande indignation, et il les a jetés sur un autre pays comme on le voit aujourd'hui. Puis là, il nous dit dans le verset 29, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc c'était la conséquence de leur désobéissance qui est décrite ici, puis c'est ce qui est arrivé parce qu'ils ont été désobéissants. Mais on parle, Dieu parle toujours de leur restauration aussi. Quand il parle de leur, puis on voit dans les prophètes aussi, dans Isaïe, dans Jérémie, dans Ézéchiel, il parle du jugement d'Israël à cause de l'idolâtrie, à cause de la désobéissance, mais il parle toujours aussi de la restauration. Puis voyez-vous, dans le chapitre 30 de Deutéronome, on voit ici qu'il leur parle de restauration. Au verset 1, il nous dit, lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé. Donc, ce n'est pas juste ici la déportation à Babylone, là, où les 10 tribus du Nord, le royaume du Nord, qui ont été emmenés en Assyrie. Ce n'est pas juste, il parle de toutes les nations ici, là. Au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé. Donc, on voit que ça parle même du temps présent. Ça va au-delà de Babylone et de l'Assyrie. Ça parle quand ils ont été dispersés à travers toutes les nations. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Israël est dispersé à travers toutes les nations. Mais ils disent au verset 2, si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, si tu obéis à sa voix, de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. Quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas, et il te fera du bien, et te rendra plus nombreux que tes pères. Et vous, ici, on voit la dispersion. Le Seigneur nous parle aussi, il nous montre que s'il y a eu la dispersion, il va avoir aussi la réconciliation. Dieu va les ramener. Dieu n'a pas fini avec eux autres. Il va les ramener dans leur pays. Mais pour l'instant, on voit que c'est un mystère, c'est le mystère de l'aveuglement d'Israël. Dieu les a, ils sont aveuglés présentement. Si on va dans Ésaïe, au chapitre 6, on va regarder quelques passages. Dans Ésaïe, au chapitre 6, on voit encore la même chose. On voit qu'il y a le rejet ou l'aveuglement comme jugement qui est venu sur eux et ensuite la restauration quand le Seigneur va les ramener. Dans Ésaïe, au chapitre 6 et le verset 9 à 13, il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez, puis ça, c'est qu'est-ce qu'on a lu tantôt dans les paraboles, c'est ça qui est cité ici, là, où les paraboles ont cité le passage d'Ésaïe 6 ici. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous vous rappelez qu'on a lu ça, vous verrez et vous ne saisirez point, rend insensible le cœur de ce peuple, endurcit ses oreilles, bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne une immense désert. Et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils reviendront pour être la proie des flammes. Mais comme, oui, ici, ça c'est la restauration, mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Et vous, Isaïe avait vu ces choses-là, Isaïe l'avait dit. Si on va maintenant dans Osée au chapitre 3. Les prophètes qui ont parlé ils ont parlé de ces choses-là, ils ont annoncé ces choses-là d'avance, parce que, comme on dit, le Seigneur savait exactement ce qui allait se passer. Et il nous dit dans les versets 4 et 5, il dit, car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statue, sans éphod et sans théraphim. Ça, c'est vraiment la situation présente d'Israël. Ils ont été sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statue, sans éphod, sans théraphim. Leur culte, et puis, ils n'ont pas le temple. Donc, ils ne peuvent pas faire les sacrifices. Ils n'ont pas leur roi, qui ne sont plus un royaume. Ils sont éparpillés. Puis, là, on voit leur rejet, mais aussi leur restauration. Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront l'Éternel, leur Dieu. Et David, leur roi, donc ça, c'est le fils de David, qui est le Seigneur Jésus-Christ, et leur roi, ils tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Et vous, Osée aussi, avait parlé de cela. Aussi, Paul, dans Osée, au chapitre 1, verset 9, il parlait d'Israël comme l'eau amie, parce que la naissance, le prophète a eu des enfants, puis quand il a nommé ses enfants, c'était un signe pour Israël. Et il dit au verset 8, elle sevra, la femme d'Osée, elle sevra l'eau chama, puis elle conçut et enfanta un fils. Et l'Éternel dit, donne-lui le nom de l'eau amie, car vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. L'eau amie, ça veut dire pas mon peuple. Donc, il y a un temps où Israël, il dit ici, il l'appelle pas mon peuple, mais un jour, il va être restauré. Paul aussi, il nous parle de. Ben, je vais m'arrêter là parce qu'on continuera la semaine prochaine parce que il est 54. C'est-à-dire que je vais vous donner un temps pour pouvoir faire des commentaires et aussi pour faire avoir des questions. Donc, je vous donne la possibilité ici de reprendre votre micro. Et si vous avez des questions ou des commentaires, on va passer un temps ici pour les regarder. Puis on commencera là la semaine prochaine. On va aller dans Romains.
Ça correspond. Gérard, la dernière référence que tu viens de lire, là, c'est pas ça que j'ai dans ma Bible.
Osée.
C'est Osée quoi?
Osée 1,9, l'eau amie.
Un
Oui.
j'ai compris neuf, chapitre neuf.
Non, il n'y a pas de petit bête.
J'ai compris 9:8.
OK, excusez.
Osée 1:9.
Ouais. L'eau amie, là,
Ah
c'est
ben oui.
osé 1,9. Ouais. Pas mon peuple.
Okay, merci.
J'aurais une question, peut-être deux, Gérald.
Okay, pas de problème.
La terre promise par rapport au millénium, c'est quoi là?
Ben dans le royaume, c'est sûr, on va en parler la semaine prochaine quand on parle de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. On va en parler la semaine prochaine, mais le peuple d'Israël n'a jamais encore reçu ou possédé le pays dans les limites que le Seigneur lui avait promis. Mais dans le millénium, ils vont le posséder. Parce que le millénium, c'est vraiment l'accomplissement de tout ce que Dieu a promis à Israël. Avec leur roi, qui est le fils de David, le Seigneur Jésus-Christ, lui, il va leur donner la possession de tout ce qui leur a été promis.
Okay. La Palestine, est-ce que ça comprend toute Canaan? Est-ce que ça va comprendre aussi le pays promis?
Ben, la Palestine, c'est ça, ça va être du fleuve, on va voir la terre qui avait été promise, là, juste. C'est à partir du fleuve de l'Euphrate jusque. Ça l'inclut beaucoup plus qu'on regardera on a dans le chapitre 15 de Genèse. Là, parce que la terre promise, c'est. Un petit peu. La terre promise, c'est. On voit par rapport à la. Il y a la. Le, un petit peu fondement. Je pense que c'est ça dans Genèse 15, là, quand tu fais la promesse du pays, Israël ne l'a jamais possédé dans toute dans toutes les limites que le Seigneur avait promis. Okay, ouais, ce jour-là, je fais alliance avec Abraham, je te donne ce pays. Regardez au verset 18 de Genèse 15. Dans ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Éthiens, des Phéréziens, des Réphaïens, des Amoréens, des Cananéens, des Guergasiens et des Jébusiens. Donc, ils n'ont jamais possédé, même du temps de David, là, ils n'ont pas possédé du temps de Salomon non plus. Mais avec le Seigneur Jésus-Christ, ils vont le posséder. C'est pour ça que Dieu ne peut pas abandonner Israël parce qu'il a fait des promesses, puis il va les accomplir.
Parce que
Merci, Gérard.
S'il y en a qui ont des commentaires à faire, vous pouvez les faire aussi.
me souviens pas. Est-ce qu'on a vu le mystère de l'enlèvement?
Pas encore.
Pas encore. OK. C'est
Non, c'est le prochain.
le prochain? OK. Parce que j'aurais une question là-dessus. On va attendre.
J'aurais une question. Quand il y a eu l'Holocauste, la dernière guerre mondiale avec Hitler, combien de Juifs qui restaient sur la Terre? As-tu une idée?
Non, je ne sais pas comment est-ce qu'il y a resté. Il y en a 6 millions qui ont été détruits. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a le nombre qui restait, mais il y a resté quand même. Il y en a resté un certain nombre. Mais les Juifs n'étaient pas tous en Allemagne non plus, là. Il y avait des Juifs dispersés parmi les nations, là. Je ne sais pas si c'était possible de les dénombrer, là, parce qu'ils sont répandus partout, là, dans les nations.
On est juste ici dans les lettres.
Mais je ne sais
Parce
pas,
que
peut-être.
plus loin possible de l'Europe.
le pays d'Israël était situé en 1948, je pense.
Ouais, en
Oui.
1948, ouais. Mais ouais, le pays avait été laissé désert dans un sens. Mark Twain, quand il est allé au début du siècle, il disait que c'était c'était des marais infestés de maringouins. Mais le pays d'Israël, comme il est présentement, on sait qu'Israël a beaucoup développé le pays, là. Depuis qu'ils sont venus, ils ont conquéri des déserts, ils ont planté des arbres, ils ont fait beaucoup avec le pays, là.
On voit que le Seigneur est avec eux autres au travers de toutes ces années.
Il y avait des Bédouins qui demeuraient dans le pays, là, tu sais, des gens qui étaient nomades. Ouais. Mais il faut que le Seigneur accomplisse ses promesses envers eux autres, là.
Ouais.
Puis il va l'accomplir. OK. Il dit,
Ben
si la
voyons donc.
population. Ouais, il dit, d'après le American Jewish Yearbook, annuaire juif, c'est Jeanne qui m'a
C'est quoi le
envoyé ça.
verset qu'on a vu? Il y avait le mot
La
mystère.
population
29,
juive d'Europe
ouais.
était de 9,5 millions de personnes en 1933. En 1950, elle n'était plus que d'environ 3,5 millions. En 1933, 60% de la population juive mondiale vivait en Europe. Okay. C'est ça. Merci, Jeanne.
Merci beaucoup.
Gérald, une affaire de référence, pourtant j'ai essayé de noter, où on a vu le mot mystère, là, c'était-tu dans Romains que tu avais lu?
Oui, dans Romains 11, 25.
C'est Romains 11, 25.
Oui, dans Romains 11, 25, c'est là qu'on voit le mot mystère. Comme il dit dans 11, 25, car je ne veux pas faire que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. OK, on est arrivé à 8 heures, même à 8 h 01, ce fait qu'on va terminer par un mot de prière, mais s'il y en a d'autres, s'il y en a qui veulent continuer de jaser, on pourra jaser après. Mais on va terminer pour ceux qui doivent partir. Ils vont pouvoir quitter. Seigneur notre Dieu, on te remercie encore une fois pour ta parole, parce que c'est vrai, Seigneur, que tu as révélé des grandes choses et on est reconnaissant pour tout ce que tu nous as révélé, Seigneur. Merci pour tes promesses qui sont infaillibles. Et on sait, Seigneur, que tu vas accomplir tout ce que tu as dit. On te remercie pour la forme intérim de ton royaume, parce que à cause du rejet d'Israël, on sait, Seigneur, que tu, quand tu accomplis quand même, tu vas arriver à ton but, Seigneur, dans ton heure. Et on t'en rend grâce. Merci pour le Seigneur Jésus qui est venu semer une bonne semence. Puis on te remercie du fait qu'on ait pu recevoir cette semence-là et qu'on peut porter du fruit pour toi. On t'en rend grâce pour cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.